Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le président Václav Klaus participera à une rencontre des chefs d'État des pays d'Europe centrale et de l'Est à Varsovie. La République tchèque soutient l'entrée de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce. Petra Kvitová s'est qualifiée pour le troisième tour des internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Invité par son homologue polonais Bronislav Komorowski, le président Václav Klaus sera à Varsovie ce vendredi et samedi, où il participera à une rencontre des chefs d'État des pays d'Europe centrale et de l'Est. En tournée en Europe cette semaine, le président américain Barack Obama participera également à cette rencontre. Seuls les présidents serbes et roumains seront absents, la Pologne ayant également invité la présidente du Kosovo, Atifete Yayaga, que Belgrade et Bucarest ne reconnaissent pas. Les 22 présidents présents discuteront notamment de la manière dont les pays d'Afrique du Nord pourraient se servir de l'expérience des pays d'Europe centrale et du Sud-Est en matière de transition démocratique. La République tchèque soutient une éventuelle intégration de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce ainsi que l'abolition des visas Russie-Union européenne. Ce thème a été au cœur d'un débat organisé ce jeudi au Sénat tchèque. D'après le vice-ministre des Affaires étrangères, Jiří Šnajdr, l'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce permettrait de définir clairement les règles de l'échange commercial entre la République tchèque et la Russie. Le président de la Commission des affaires européennes du Sénat, Luděk Šefčík, estime que l'entrée de Moscou à l'OMC est dans l'intérêt de toute l'Union européenne. La Russie est la dernière grande puissance économique à ne pas être intégrée au système commercial multilatéral. Les fouilles archéologiques menées pendant 4 jours dans la localité Uvialukto, à proximité de la commune de Dobronin, dans la région de Vysočina, dans le centre du pays, se sont terminées ce jeudi. Des restes de squelettes, d'habits et 3 crânes y ont été retrouvés. Il s'agit probablement de restes d'Allemands originaires des Sudètes assassinés dans le cadre d'exactions anti-allemandes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les dépouilles trouvées cette semaine vont être envoyées pour analyse à l'Institut d'anthropologie de Brno. La galerie des jouets du musée des arts décoratifs de Paris prépare une exposition monographique dédiée à la designer tchèque Libuše Niklová, décédée en 1981. Ses créations, restées peu connues en France, ont bouleversé le jouet traditionnel et ont profondément marqué plusieurs générations d'enfants de son pays. Le public français aura l'occasion de découvrir notamment ses jouets en caoutchouc et en plastique, créés à partir des années 1950. L'exposition intitulée Plastique ludique sera inaugurée le 9 juin prochain. Petra Kvitová s'est facilement qualifiée pour le troisième tour des internationaux de France de tennis à Roland-Garros ce jeudi midi en battant la chinoise Cheng Tie, 80e mondiale, en 2-7, 6-4, 6-1. La tchèque tête de série numéro 9 sera opposée à la britannique Elena Bartaša ou à l'américaine Vania King au prochain tour. Une autre tchèque, Lucie Hradecká, a été éliminée au deuxième tour par l'allemande Andrea Petkovic, 6-7, 2-6. Chez les hommes, le tchèque Lukáš Rosol dispute lui aussi son match, comptant pour le deuxième tour ce jeudi. Il affronte l'Autrichien Jürgen Meltzer. Côté météo, un passage orageux devrait affecter la République tchèque dès ce jeudi soir. Vendredi, le ciel sera couvert avec de la pluie sur la majeure partie du territoire. Les températures seront en baisse entre 13 et 17 degrés. C'est les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Guillaume Larquet.
Les événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Dans les prochaines 20 minutes, il sera d'abord question d'un projet de partenariat franco-tchèque, la maison Dizieux en France, le mémorial des enfants juifs exterminés. C'est en effet associé avec le mémorial de Térésine pour un programme pédagogique. Nous entendrons la directrice française nous en dire plus sur ce projet dans quelques instants. Nous ferons ensuite un petit pas de danse. Le festival de danse contemporaine Correspondance Europe se tient actuellement à Prague. Et puis la seconde partie de notre programme du jour sera consacrée au portrait d'un chercheur exceptionnel. Ses recherches qui ont abouti à une collaboration tchéco-belge permettent aujourd'hui de traiter pas moins de 60% des personnes dans le monde atteintes du sida. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. « La maison d'Izieux en France, le mémorial des enfants juifs exterminés, s'est associée avec le mémorial de Térézine en République tchèque pour un programme pédagogique. Geneviève Eramuspé est la directrice du mémorial d'Izieux, fondé là où 44 enfants et 7 adultes juifs ont été arrêtés puis déportés en 1944. Elle a parlé de ce projet franco-tchèque au micro d'Alexis Rosenzweig.
Les enfants qui sont venus à Izieux, c'était des enfants juifs qui venaient de toute l'Europe. Il y avait des enfants qui venaient de Pologne, il y avait des enfants enfin, dont les parents venaient de Pologne, venaient de Belgique, venaient de Autriche, Allemagne, Russie. Bon, il y a eu des enfants dont les parents venaient de Bohême-Moravie, justement. Et bon, c'est aussi une histoire européenne. Lisieux se trouve finalement être un petit symbole d'une histoire beaucoup plus vaste, qui n'est pas qu'une histoire locale, qui n'est pas qu'une histoire dans le département de l'Ain, c'est pas ça. Et en plus de ça, bon, la place des enfants, elle est centrale. À Térézine, quand on voit là la synagogue Pinkas ici à Prague, les dessins des enfants, ils sont aussi exposés à Térézine, c'est vraiment bouleversant. Il y a quelque chose d'extrêmement fort là. Nous nous intéressons depuis déjà quelques années à la République tchèque et à son histoire, pendant le nazisme, mais aussi après. Et après avoir passé quelques temps déjà de découverte, de travail de recherche, on va dire, pas personnel, mais de préparation de ça, on a approché nos collègues, on va dire, du mémorial de Térézine, du service pédagogique, pour leur demander si on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble et faire une formation pour des enseignants francophones ou d'autres enseignants d'ailleurs, puisque l'an dernier nous avions une Allemande et des Italiennes aussi, puisque c'est sur financement de bourses européennes.
Ça remonte à quelle année cette initiative ?
Alors, les premières démarches, les premiers contacts avec le mémorial de Térézine datent de 2006 et la matérialisation, la première réalisation, c'est l'an dernier en 2010 et la prochaine université d'été a lieu là du 19 au 26 août prochain à nouveau et c'est un projet récurrent maintenant qu'on va mener régulièrement avec eux. Un projet dans lequel on voudrait évidemment introduire l'histoire juive, hein, l'histoire du ghetto Térézine bien sûr, l'histoire de la Bohême-Moravie, des juifs de Bohême-Moravie, mais aussi, la République tchèque, elle est dans l'Union européenne. Et l'enseignement aussi, ou les voyages qu'on fait comme ça, on va voir un mémorial, bon, Térézine, puis après on revient et voilà. Et l'histoire du pays, on passe un peu à côté. Donc ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place des liens, mais des liens qui dépassent aussi simplement un intérêt historique limité. C'est aussi découvrir un peu aussi l'histoire du pays dans lequel on est. Donc c'est introduire aussi cette dimension historique, ou en tout cas après 14-18, qu'est-ce que c'est que la Tchécoslovaquie depuis 14-18, qu'est-ce que c'est que la Moravie, qu'est-ce qu'a été la Tchécoslovaquie après et la République tchèque. Donc c'est découvrir aussi toutes ces phases de l'histoire, rentrer un petit peu plus comme ça aussi dans la culture tchèque. Et alors dans ce séminaire, on a la chance d'avoir des jeunes historiens tchèques. Le séminaire, il est bilingue, hein, on a une traduction simultanée et on a des historiens du pays. On ne vient pas avec des historiens français, on vient avec des enseignants majoritairement français, mais avec des intervenants qui sont d'ici pour qu'on découvre aussi la recherche historique contemporaine, l'état de la recherche. Et donc ça, c'est un travail qui se fait à la fois dans le lieu, dans le site, beaucoup sur site, donc avec beaucoup de visites, et puis aussi dans Prague, avec également des parcours dans la ville et des rencontres d'intervenants. On a rencontré aussi un très grand écrivain tchèque, et Ivan Klima, qui a été interné au ghetto de Térézine, hein, du début jusqu'à la fin du ghetto, et à qui on a demandé de témoigner l'année dernière et qu'on a rencontré, qui est venu au ghetto, un jeune historien franco-tchèque, donc Thomas Heida. Et puis cette année, on voudrait aussi inviter Laurent Binet, qui ne le sait pas encore, mais on va le joindre prochainement.
C'était donc Geneviève Eramuspé, la directrice du mémorial d'Izieux, situé dans le département de l'Ain, en France. Jusqu'au 31 mai, c'est-à-dire jusqu'à mardi prochain, se déroule à Prague le Festival de danse contemporaine Correspondance Europe, un événement qui s'est étalé sur tout le mois de mai et qui promeut une vraie dimension européenne de la culture. Marie Kinski est l'organisatrice de ce festival Correspondance Europe. Elle en a dit plus à Anna Kubista.
Ce festival propose une grande variété d'esthétiques et de projets artistiques. Dans l'ensemble, nous présentons dans le festival 11 divers projets, avec des projets qui sont venus de quatre pays différents, de la France, de l'Allemagne, de la Slovaquie et de la République tchèque. C'est le résultat d'un projet européen qui s'appelle Correspondance Europe, donc le même titre que le festival, qui dure depuis 2009 et au cours duquel nous avons donné la possibilité à 350 artistes de ces quatre pays de se rencontrer, de travailler ensemble. Et le festival, c'est en fait le résultat, une petite partie du résultat de ce projet.
Correspondance Europe a commencé début mai, hein, vers le 9 mai, ça s'achève le 31 mai. Donc il reste un dernier bloc de spectacles, de chorégraphies, pendant le week-end qui vient et au-delà du week-end puisque c'est jusqu'à mardi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les temps forts de ce troisième bloc?
Alors le troisième bloc est constitué de quatre soirées qui dans l'ensemble présentent 8 spectacles différents. Il y a d'abord au théâtre Arca 2 spectacles, un spectacle allemand et un spectacle français, mais qui ont des participants de tous les pays, puisque c'est le but du projet. Donc vous allez pouvoir à la fois voir Atlas Fantasy de Béatrice Massin, qui est un spectacle résolument contemporain, mais sur des bases baroques, ce qui est vraiment le projet de Béatrice Massin dans son ensemble. Elle a invité pour ça des danseurs contemporains, et qui, avec leur sensibilité, a apporté des éléments baroques qui donnent quelque chose, un spectacle d'une très très grande poésie. Donc ça, c'est Atlas Fantasy. Ensuite, vous allez pouvoir voir un spectacle de Helge Ledonia, qui a travaillé avec deux jeunes Français, qui a confronté deux jeunes hommes dans tous les types de relations possibles. Il y a un autre spectacle qui est au studio Alta. Et là, nous présentons une très jolie chorégraphie slovaque, qui est d'Eva Klemáčková, qui a fait le pari, contrairement à son habitude, de faire quelque chose exclusivement sur le mouvement.
Parmi aussi les temps forts de ce troisième bloc, alors il y a aussi une chorégraphie de Paco Dessina.
Oui.
Quelle est un petit peu cette chorégraphie? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous la décrire?
Le 31, nous proposons le spectacle de la compagnie Paco Dessina. C'est donc pas quelque chose qui a été créé dans le cadre de Correspondance, mais avec Paco Dessina qui a collaboré à Correspondance Europe à plusieurs titres. Là, c'est un spectacle qui a fait date dans la saison 2009 en France. C'est vraiment un spectacle dont on a parlé pour ses qualités d'abord artistiques, esthétiques, et d'autre part par l'emploi que fait Paco Dessina des nouvelles technologies, qui est tout à fait révolutionnaire, puisqu'il filme en temps réel les mouvements des danseurs et qui se retranscrit en traits qui prolonge le mouvement lui-même, c'est-à-dire qu'en temps réel le mouvement des danseurs est prolongé par un dessin. Ça fait donc l'espace en trois dimensions entre en plus un espace en deux dimensions mais qui est virtuel. Voilà, et ça nous le proposons à Nova Scena, le théâtre contemporain du théâtre national, et qui a pour vocation, entre autres choses, d'entretenir l'héritage de Svoboda, donc des nouvelles technologies, la lanterne magique, etc. Et du coup, proposer ce spectacle dans ce lieu-là, ça fait un sens et pour présenter la danse contemporaine française et pour investir une histoire tchèque.
Juste pour terminer, il n'y a pas que des chorégraphies, hein, y a un programme un peu annexe, mais qui est quand même lié au festival, donc avec des expositions. Est-ce qu'on pourrait juste dire de manière très brève ce que les personnes peuvent voir ou découvrir dans le cadre de la fin de ce festival?
Alors, il y a plusieurs actions, effectivement, en dehors des spectacles qui sont proposés. Il y a des discussions avec les chorégraphes à la fin de chaque soirée. Et puis, il y a deux expositions de photos. Une exposition qui retrace plus l'historique du projet Correspondance Europe, qui a lieu au Théâtre Ponetz. Ensuite, vous aurez une exposition au café Standard Café, Carolina Svetier, où là, nous présentons plus les spectacles du festival lui-même, et qui est déjà accroché et qui se termine aussi le 1er juin.
C'était Marie Kinski, donc l'organisatrice du festival de danse contemporaine Correspondance Europe. Et c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. Comme chaque jeudi, tous les 15 jours, place maintenant au portrait d'un Tchèque, parfois célèbre, d'autres fois un peu moins. Aujourd'hui, il sera question de chimie organique, plus précisément d'une importante découverte tchéco-belge qui s'appelle les antiviraux, des médicaments qui traitent notamment les patients atteints du sida et de l'hépatite B. À son origine se trouve le chimiste tchèque de renommée mondiale, Antonín Holý, qui fêtera ses 75 ans le 1er septembre prochain. Il y a 25 ans de cela, les résultats de ses recherches révolutionnaires ont été publiés pour la première fois dans le prestigieux magazine Nature. Le portrait d'Antonín Holý par Magdalena Rozinková.
les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Les lentilles de contact inventées par Otto Wächterle et les antiviraux découverts par Antonín Holý. Voilà deux des plus grands succès de la science tchèque au XXe siècle. Deux succès qui ont eu un impact mondial.
Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Des gens comme moi, il y en a plein, rien que de notre institut. Je suis un scientifique ordinaire qui a découvert, par hasard, lors de ses recherches, quelque chose de particulier.
Affirmé Antonín Holý dans une interview accordée en 2003 au site Ibnes CZ. Dans ce même entretien, il expliquait.
Toute ma vie, je travaille parallèlement sur trois ou quatre matières. Pour que les choses bougent, un scientifique ne doit pas se concentrer sur un seul travail. C'est une perte de temps énorme. Nous ne savons pas encore créer une substance efficace à l'ordinateur. Nous devons donc appliquer la méthode essai-erreur. Il n'y a pas d'autre voie pour l'instant. Je vérifie mes idées en pratique. Mais pour cela, il faut avoir une grande intuition et beaucoup d'expérience. L'expérience est ennuyeuse, mais c'est elle qui compte le plus.
Antonín Holý est né le 1er septembre 1936 à Prague, d'un père ouvrier et d'une mère au foyer. Dès son enfance, il se passionne pour les expériences chimiques, il s'en souvient.
À l'époque, nous avons pu fabriquer à la maison un feu de Bengale, par exemple. Il a été un peu difficile de se procurer du verre chimique, mais nous en avons quand même trouvé chez des petits commerçants. Ensuite, tout a disparu des magasins. Sur tous les produits chimiques, les autorités communistes ont probablement eu peur des explosifs faits maison.
Antonín Holý a étudié la chimie organique à la faculté des sciences de l'université Charles. Jeune diplômé, il intègre l'Institut de chimie organique et de biochimie de l'Académie des sciences, auquel il restera fidèle pendant toute sa vie et où il effectuera toutes ses recherches, axées depuis les années 60, sur les acides nucléiques. Un travail rendu compliqué par le contexte politique. Après 1968, la majorité de ses collaborateurs de l'Académie des sciences prennent le chemin de l'exil. Même s'il possède de nombreux contacts à l'étranger, Antonín Holý, marié à une spécialiste en chimie alimentaire et père de deux filles, choisit de rester en Tchécoslovaquie. 1976 marque un tournant dans sa carrière. C'est à ce moment-là qu'il commence à collaborer avec son collègue belge, Éric de Clercq, professeur en sciences biologiques et médicales à l'Université catholique de Louvain et spécialiste en virologie. Antonín Holý lui envoie une substance développée à Prague qui aurait des effets antiviraux et lui demande de la tester à Louvain, d'abord sur des cellules et ensuite sur des souris. Cette collaboration fructueuse, qui se poursuit aujourd'hui encore, a donné naissance entre autres au Vistide, au Viréad et à l'Epsera, autant de médicaments traitant les maladies virales comme l'herpès, la variole, l'hépatite B ou le sida. Éric de Clercq, qui fête cette année ses 70 ans, vient régulièrement en République tchèque. Lors de l'une de ses visites, au printemps 2007, la faculté de médecine de l'Université Charles à Prague lui a remis le titre de docteur honoris causa. À cette occasion, Éric de Clercq s'était souvenu au micro de Radio Prague de sa première rencontre avec Antonín Holý, à une époque où leur pays, Belgique et République tchèque, étaient séparés par le rideau de fer.
J'ai rencontré Holý tout par hasard, un meeting qui donc avait lieu dans la ville de Göttingen, c'était au Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie, le chimiste était intéressé d'avoir donc une piste pour les activités antivirales, tandis que moi j'étais intéressé à avoir des contacts avec les chimistes.
Quand on s'est rencontrés, notre but c'était de développer des produits contre l'herpès, hein, parce qu'à ce moment-là, je parle donc des années 76, hein, donc il n'y avait pas de traitement spécifique pour l'herpès. Et donc ça, c'était le fléau le plus grand dans ce domaine. Alors l'acyclovir est venu comme vraiment le premier médicament pour le traitement de l'herpès. Et à cette époque-là, j'avais déjà donc développé un produit de base qu'on avait appelé le DHPA, qui n'est jamais devenu un médicament, mais qui a donné donc la fondation pour le développement de produits que j'ai appelés les phosphonates, dont donc le premier de ces produits était actif contre l'herpès, et puis le second que l'on avait développé était actif contre l'hépatite B, et le troisième contre le sida.
Il s'agit en fait d'une collaboration tchéco-belgo-américaine, car Antonin Holly et Eric De Clercq se sont liés avec l'entreprise pharmaceutique Gélite de San Francisco. Eric De Clercq précise.
La synthèse chimique, la chimie, est faite ici à Prague, dans l'institut qui s'appelle IOCB, Institut Organic Chemistry et Biochemistry. Et puis l'évaluation biologique antivirale est faite chez nous, l'Institut REGA, qui est situé à Louvain, en effet à Leuven. Donc les produits que nous avons découverts ont donc trouvé une application dans l'industrie. Et nous avons eu donc l'opportunité de travailler ensemble avec ce qui s'appelle Gilead Sciences. C'est une firme pharmaceutique. Et c'est donc, en effet, ça s'est devenu une collaboration entre trois entités. Donc, la chimie, qui s'est faite à Prague, la biologie médicale aussi, qui s'est faite à Leuven, et puis donc l'application industrielle, qui est fait par les Américains. Donc, ça veut dire que le monde a la perception que ces produits sont découverts en Amérique. En effet, ils sont découverts ici. C'est vraiment, donc, ce sont des produits européens dont les Américains ont maintenant donc la réputation d'être les auteurs ou les inventeurs.
Une explication pour les amateurs de chimie, comment fonctionnent concrètement ces médicaments antiviraux, Eric De Clercq.
Ce sont des produits donc, dont le nom de famille, mais ça c'est très chimique, s'appelle les phosphonates. Et qu'est-ce que c'est donc en termes très simplifiés bien sûr? Donc les phosphonates sont des analogues à ce qu'on appelle les phosphates. Et les phosphates, ça forme un peu la colonne vertébrale de ces molécules. Et ça c'est important parce que ça c'est aussi un élément dans les acides nucléiques qui donc, forment aussi la base des virus. Donc l'invention de notre côté, c'est que les produits que nous avons donc inventés ont une action antivirale parce qu'ils mimiquent donc, ce qui se produit dans l'RNA des virus. Et aussi l'RNA des rétrovirus, comme le virus SIDA, mais aussi donc, les virus à ADN. Ces produits donc vont tromper les virus et donc vont développer une activité antivirale.
Il existe actuellement trois formes pharmaceutiques du médicament pour le traitement du sida, Viread, Truvada et Atripla, le dernier étant pour l'instant le plus efficace. Mais dans quelle mesure ces produits soignent-ils du sida, Eric De Clercq?
Il n'y a pas de moyen d'éradiquer le virus. Personne ne sait faire ça. Mais nous avons donc très bons résultats avec la suppression du virus. Donc dès qu'on est infecté avec le VIH, donc, que l'on appelle le VIH, on reste infecté pour toute la vie. Hein. Ça, donc on ne peut plus éradiquer le virus. Il n'y a personne, il n'y a pas un seul produit, même pour l'avenir, ce ne sera pas possible. Mais ce qu'on peut faire, c'est de supprimer, vraiment d'affaiblir le virus telle sorte qu'on n'a plus de symptômes de la maladie et qu'on peut rester en vie, peut-être, pour toute la vie.
Environ 60% des personnes séropositives dans le monde suivent un traitement développé par Antonin Holly et Eric De Clercq. Bien que souffrant d'une maladie de corde vocale qui l'empêche de voyager et de communiquer avec les médias, Antonin Holly continue de mener ses recherches. Lui-même et ses quatre jeunes équipes scientifiques de l'Institut de chimie organique et de biochimie se consacrent entre autres au développement de médicaments actifs contre l'hépatite C et le cancer. Auréolé de nombreuses récompenses, Antonin Holly a été proposé par l'Académie tchèque des sciences pour le prix Nobel de médecine 2009. Un trophée dont il est bien le détenteur imaginaire dans l'esprit de beaucoup de Tchèques. Il n'a pas de concurrent dans l'histoire de la science tchèque. Dans son cas, nous parlons de millions de vies sauvées, conclut Jan Konvalenka, le collègue d'Antonin Holly à l'Académie des sciences.
Et c'est déjà... déjà la fin du bloc Actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.